Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ouais, c'est parti.
Hé, hey, toi, viens ici.
Moi ?
Bah oui, toi, t'es le stagiaire.
Oui, Alex, ça fait 3 mois.
Monsieur Vizorek.
Pardon.
Bon, je réécoute l'émission d'hier et je tombe là-dessus.
Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons confié le débriefing de l'émission à notre brillant stagiaire qui s'appelle Mathias Volant. Le Matou, comme on l'appelle.
Ouais, Matou.
Matou.
Hey, le Matou. Qu'est-ce que c'est que ça qu'on te confie, mon boulot ? Et en plus, c'est débâclé.
Non, mais c'est Charline.
C'est Charline. Alors écoute, Mathieu.
Mathias.
Ouais, enfin, le stagiaire. Si t'as décidé de me prendre pour une truffe, t'es bien mal tombé.
Salut, les amis.
Salut, Charline.
Ah, Matou. Hey, c'était vachement bien hier, bravo hein. Hein Alex, c'était une bonne idée que Mathias fasse le débrief. Mais
j'étais en train de lui dire justement, je le félicitais parce que ne me remercie pas Mathieu, c'est important qu'un manager comme moi puisse te tirer vers le haut.
Oui,
aussi.
Bon, alors, ça va, l'émission d'hier. Alors.
Allez, on travaille. Et tu vas aller chercher 2 cafés Mathieu.
Mathias.
Oui, et arrête de me contredire, il ose tout celui-là, tu sais. Alors hier Charline, le problème de l'émission c'était l'ambiance.
Ah bon ?
Bah écoute.
Et Valérie Carcentier est avec nous jusqu'à 18h. Il y a aussi Clara Dupont-Mono.
Qui a parlé de la mort.
Il y a Constance.
Qui a parlé de la mort.
Et il y a Guillaume Meurice.
Et on écoute donc Kurt Cobain.
Ah ouais, il y avait comme une thématique.
Mais ce serait peut-être mieux une thématique joie de vivre.
Essaye de me rassurer quand même. On s'est bien amusé dans l'émission d'hier.
Ben oui, mais essentiellement grâce à un seul homme.
On commence donc.
Benjamin s'en passait.
Il nous a fait la journée.
Du début à la fin.
Et donc je suis, au nom du gouvernement de la France,
un alcoolique notoire.
Quel héros ce Jean Vince.
Pour les cafés, sucre, lait.
Oh Mathieu, là, on bosse, merde.
Mathias.
Oui, avec du sucre et puis un petit peu de lait, mon Matou. Bonjour la France Inter, nous sommes le vendredi 6 avril 2018 et Jean-Vincent Placé n'a toujours pas dessoulé, alors ne l'oublions pas. Mais bienvenue dans la start-up. Hier, le journal Libération titrait « Le malaise colon ». Alors qu'il présente le projet de loi asile-immigration, posons-nous cette question. Qu'y a-t-il dans la tête de Gérard Collomb ?
Un fasciste de merde !
C'est clair.
Il y a la réponse dans le son maintenant.
Une start-up propose de télécharger notre cerveau pour le conserver éternellement sous forme de simulation informatique. Il y a une clause à remplir toutefois, la start-up doit d'abord vous euthanasier. Eh oui, pour vitrifier votre cerveau. Ah bah alors, mieux vaut qu'il soit gros, le cerveau.
Est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence ?
Les notifications qui surgissent sur nos smartphones imposent leur tempo et il devient difficile de ne pas être interrompu par un message plus urgent que le message urgent reçu 2 minutes avant. Est-ce que ça peut nous rendre chèvres ?
Et comme je te vois parti pour passer l'été avec un encéphalogramme de poulpe, moi je prends les devants.
Lui, son urgence, on la connaît. C'est quand son appli de brève en fait une, tomber une toute bonne. C'est Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Et pour terminer la semaine, eh bien, une belle équipe, figurez-vous. À 17h20, notre troubadour poète qui observe l'actualité depuis sa lune. Si le petit prince avait le coiffeur de Robert Smith aujourd'hui et fumait des joints, ce serait Thomas VDB.
Qu'est-ce qu'elle était compliquée, cette introduction. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler, vous savez que nous on est un peu des rigolos qui parlons de politique. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler du jour où les politiques décident de faire les rigolos.
C'est pas vrai. 17h20.
C'est vrai.
Philippe Gueluc a dit, la mort c'est un peu comme la connerie, le mort lui... Il ne sait pas qu'il est mort. Le con, c'est pareil. Elle a donc choisi de parler plutôt avec les morts. C'est Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, alors je vais vous faire chanter les morts.
The Voice de l'au-delà.
The Voice of the au-delà.
Eh ben très bien. Et à 17h40, celle qu'on appelle la Jean-Vincent Placé, les buts de Chaumont.
Merde.
C'est Julien Tardot. De quoi on va parler ?
Mais je ne suis pas misogyne.
Ah oui, pardon. Oui, pardon.
Oui, voilà. De quoi on va parler ? Alors attention, c'est une première. Ouh, Juliette lit la science.
Oh là là. À 17h55, comme les beaux jours sont de retour, l'occasion de provoquer ce soleil prétentieux en l'opposant à la dernière chanson de Frédéric Fromet en fin d'émission.
Et je me tourne vers celui qui bénéficie d'un plan d'arrivée volontaire. Vous êtes neurologue et neurophysiologiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et membre du comité national d'éthique. Vous avez tenu une chronique sur cette antenne durant l'été dernier, une chronique intitulée « Parlez-vous cerveau » dont vous tirez un livre aujourd'hui écrit avec votre épouse Karine. Ah, je peux pas dire le nom de famille sinon vous êtes...
Je suis Lionel Nakache.
Voilà.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
dans votre présentation, Charline, vous avez oublié de parler de cette petite carrière de sosie d'Eli Chouraki que vous avez menée pendant tout un temps et qui a été un petit succès.
À travers les âges, le sosie change. Longtemps comparé à Woody Allen, mais là, Eli
Tim
Chouraki,
Burton aussi, j'ai pas.
Lionel Nakache, parlez-vous cerveau, donc paru aux éditions Odile Jacob. On va en parler dans toute cette émission, car le cerveau, il en sera question. Même le cerveau du côlon, c'est vous dire, si c'est anatomique aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est une journée très tristoune pour tous les Français, puis pour France Inter aussi. Et Jacques Higelin, Juliette, quand vous êtes arrivée dans le bureau, ça n'est pas large tout à l'heure. Il y a un souvenir avec Jacques Higelin et... Jacques Higelin, c'est toute votre vie en fait.
Ben, c'est ça, c'est toute ma vie. Et j'ai eu la chance de le voir plein de fois en concert, dont une fois quand j'étais pas bien vieille au Maroc. Et je m'étais écrit en lettres de feutre rouge Higelin sur le front. Il avait arrêté de chanter au milieu d'une chanson pour dire « Ah là là, il y a une louloute, elle s'est fait tatouer mon nom sur le front, donc tout ça au milieu de la chanson. »
Non, quand même pas tatoué.
Non, j'ai rien dit du tout, je suis devenue toute rouge. Et il m'a fait monter sur scène et j'ai fini le concert avec lui sur scène. Et puis, il m'a donné la devise de toute ma vie.
Qui est
«
Aller chercher... » Champagne pour tout le monde.
Exactement. « Aller me chercher sans retard, l'ami qui soigne et guérit. La folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. »
Champagne. Ouais, merci Juliette. Il y a des souvenirs autour de cette table avec Jacques avant qu'on arrive dans les tréfonds de nos cerveaux, Lionel Nakache.
Non, moi j'ai pas des souvenirs aussi proches que ceux de Juliette, mais simplement il fait partie, c'est très triste parce qu'il fait partie un peu de notre ce que j'appelle la conscience collective de beaucoup de gens parmi nous. Hein, donc même sans avoir été aussi proche ou avoir des souvenirs qu'on y est épisodiques, c'est-à-dire qui mêlent votre vie à sa vie là. C'est évidemment une nouvelle très triste, mais je n'ai pas eu la chance de le connaître personnellement.
VDB ?
Moi, j'ai le souvenir d'une de mes toutes premières chroniques à France Inter, il y a une dizaine d'années, où j'étais dans l'équipe de Stéphane Bern, et où j'étais pas encore très expérimenté en chroniqueur. J'avais fait une chronique sur lui, donc en sa présence, et j'avais fait une blague assez agressive au début. En fait, je voulais pas du tout être agressif, mais c'était très mal articulé, et il s'était levé de la table, et il a dit « Ah, oh, si c'est ça, je m'en vais, moi !» Je participe pas à l'émission, je dis « Mais non, pardon !» Et Stéphane Bern avait dit « Non, restez !» Je m'étais excusé après, tout était rentré dans l'ordre, mais je m'étais affiché devant Jacques Higelin.
Voilà. On écoutera Jacques Higelin, bien sûr, dans un instant. D'abord, Lionel Nakache. Donc, parlez-vous cerveau. Moi, il y a évidemment un chapitre qui a attiré particulièrement mon attention. Je ne sais pas si vous devinez lequel, sans doute Vizarek aussi. La créativité, bien sûr. Je me suis dit, tiens, alors, quand on sait comment fonctionne le cerveau, on peut aussi réfléchir à la manière dont on peut la faire surgir, la créativité. Il y a comme presque un mode d'emploi dans la chronique sur la créativité.
C'est vrai, c'est drôle que vous ayez choisi ce chapitre parce que c'est le seul vraiment pour lequel il y a une sorte de mode d'emploi, hein, parce que c'est pas un livre de prescription, c'est livre de compréhension, de décryptage de soi, mais pour la créativité. Et ce qui est fascinant, c'est que les premières connaissances qu'on raconte là, il y a une recette en quatre étapes, hein, on peut la commenter, elles ont été découvertes par des psychologues avant tout. Et ce qu'il y a de contemporain, c'est qu'avec l'angle des neurosciences, donc l'étude du fonctionnement du cerveau, on peut comprendre mieux l'inscription biologique de ces mécanismes. Et ces mécanismes, en fait, je pense que dans la vie de tous les jours, chacun d'entre nous en fait l'expérience, c'est que pour créer quelque chose de nouveau, ou résoudre quelque chose que vous avez envie de résoudre, ou d'inventer quelque chose, eh bien, il y a une sorte de balai assez subtil entre ce qu'on peut appeler le mode de fonctionnement conscient, ce qu'on veut faire, on se concentre, ça nous demande du temps, des efforts, etc., et puis des modes de fonctionnement totalement inconscients. Et il faut savoir alterner les deux. Et quand on arrive à avoir cette sorte de gymnastique, avec du sommeil souvent entre les deux, eh bien on peut avoir parfois la chance de voir quelque chose qui nous jaillit à l'esprit. Et souvent on a le cliché romantique de dire « Ah oui, la décréativité c'est inconscient », alors qu'en fait non, il faut de l'inconscient, mais il faut aussi de la conscience.
Vous pouvez redire ça ? Sieste ?
Dites-le. Oui, siège, je signe. Voilà, alors, ça peut être la nuit aussi, hein, c'est pas nécessairement pendant le travail. Mais en tout cas, le sommeil est essentiel pour, justement, ces échanges entre ces. On a des choses qu'on ne connaît pas, justement. Si, on est toujours conscient de ce qui nous arrive. Mm-hmm. Donc, le seul point de vue qu'on a sur nous-mêmes, c'est celui qu'on a actuellement, c'est ce qu'on a à l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est de partir à l'exploration de tout ce qui est en dehors de ça, qui n'est pas conscient et qui joue un rôle important.
Et voilà qui donne le ton de cette émission. On va parler dans ces trois sujets du cerveau, de comment ils font. De quoi il est composé. Et puis là, tout de suite, donc Jacques Higelin, alors.
Bien sûr.
Eh oui. Jusqu'à 18h, vous êtes sur France Inter. Juliette, respirez très fort. De toute façon, c'est tête en l'air, donc ça vous met une patate d'enfer.
Le fond de la misère. je lance un appel aux archanges de l'amour. Quelle chance un vautour, d'un coup d'aile, d'un coup de bec, me rend aveugle et sourd à la détresse. Pieds noix que dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vie, et les oubliettes au fond de la cour. Comme un vol d'hirondelle échappé de la poubelle des cieux.
Touring, Juliette Arnaud.
Jacques Higelin sur France Inter. Et nous sommes en compagnie de Lionel Nakache, Parlez-vous cerveau, c'est le livre qu'il publie avec Karine Nakache aux éditions Odile Jacob et coédité par France Inter. Et pour entourer Lionel Nakache,
allez. Eh bien, qui vois-je, Thomas VDB, grand moi. Retour, Christine Gonzalez, grand retour aussi, et Juliette Arnaud, dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Lionel Nakache, à ce moment-ci, c'est l'heure des informations, c'est parti.
Oui. Ah oui, oui.
Entartons les pompeux cornichons.
Le journal de presque 17h17.
Glop, 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 glop.
Et on commence par les titres.
Selon le Canard enchaîné, Marlène Schiappa, en visite au consulat français de New York, a comparé Brigitte Macron à Simone de Beauvoir.
Eh oui, et comme le disait bien Simone de Beauvoir, on ne naît pas première dame, on le devient.
Dans les Yvelines, oui. La maison de Landru est à vendre.
Ah oui, foncez parce qu'il ne faut pas trop traîner, les prix risquent de flamber.
Mais bref.
Oui, on parlera de Jean-Vincent Placé. Ah. Sûr.
Oui, bah. Et on commence par évidemment une pensée pour Jacques Higelin qui nous a quittés aujourd'hui.
Mais oui, vous l'avez appris par l'AFP, j'imagine. Comme...
Non, pas par l'AFP, c'est parce que ça courait dans tous les sens dans les couloirs de France Inter. Et puis oui. Ça, un vendredi après-midi, c'est extrêmement rare.
C'était le bon indice. Et notons évidemment que Michel Sardou, Didier Barbolivien et Pascal Obispo sont toujours en bonne santé.
Passons à la politique.
Oui, avec Françoise Hardy.
Politique, on a dit, Alex.
Ah oui, mais non, la grosse info, c'est Françoise Hardy qui l'a donné dans le quotidien. Elle a lu le thème astral d'Emmanuel Macron.
J'ai regardé, oui.
Et
ah, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est né sous le signe du Sagittaire. Ses dominantes planétaires sont Uranus et Mars, et pas du tout Jupiter.
Et c'est Manu qui lui avait demandé, figurez-vous.
Ah oui, donc la vraie info, c'est que Macron se fait conseiller par des astrologues.
Oui, ça se voyait un petit peu quand même.
C'est vrai. Oui. Marlène Schiappa a donc comparé Brigitte Macron à Simone de Beauvoir.
Oui.
C'est un peu abusé quand même.
C'est... Bon, Simone de Beauvoir, oui, c'est une femme importante, mais elle a quand même pas fait très souvent la couve de VSD. Donc,
Et puis son mari avait aussi les mains sales.
Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Passons à Jean-Vincent Placé, on a des nouvelles.
Bah, écoutez, dans la série LOL, le Huffington Post a bien bossé et nous a trouvé 2-3 petits sons qui sont plus intéressants à la vue de ce qui s'est passé hier.
Chaque acte raciste doit être très clairement dénoncé, sanctionné.
Il faut revenir à des cours d'éducation, de politesse. Oui, j'assume le mot, de politesse.
Mais oui, il est brillant, il assume ce mot, évidemment.
International, le prince héritier d'Arabie Saoudite sera à Paris la semaine prochaine.
Oui, un héritier riche à Paris. J'espère qu'il ne va pas croiser Laetitia Hallyday.
États-Unis, à Brooklyn, un afro-américain a été abattu par des policiers.
Oui, sûrement. Oui, c'est, mais c'est une forme d'hommage, hein, je crois, pour les 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King. C'était...
Retour en France, alors.
Oui.
Nordal Lelandais a été mis hors de cause dans la disparition d'un cuisinier belge.
Yes. Une affaire sur 3476 dans laquelle il n'est pas cité.
Une de moins, on va dire.
Voilà.
Impôts, 500 000 déclarations mal pré-remplies ont été renvoyées aux contribuables qui devront faire eux-mêmes les modifications pour corriger les erreurs.
Voilà, apparemment, même le fisc est atteint de phobie administrative, on va pas s'en sortir.
Allez, du sport avec Martin Fourcade.
Oui, Jean-Jacques Bourdin recevait donc le président du comité des athlètes pour les JO de Paris 2024. Est-ce qu'il angoisse, Jean-Jacques, parce qu'il connaît le sport? Il a une vraie question à lui poser.
Vous allez faire la promotion de la pétanque, j'espère.
C'est un des sports qui pourrait rentrer aux Jeux Olympiques, alors il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup, mais oui, c'est un peu tant qui intéressait. Ouais,
allez, les brèves.
Oui, Montpellier, son cœur s'arrête de battre pendant 18 heures et il survit.
Oh là, c'est énorme, ça.
Ouais, enfin, ça va, Jean-Marie Le Pen, ça fait 90 ans maintenant et ça tient quand même.
La dernière.
Et la dernière, privé de permis pour conduite en état d'ivresse, il se fait conduire à la gendarmerie de Bléré par un ami. Ivre lui-même.
Ouais, et donc, et la vanne là-dedans.
Bah non, c'est pas une vanne, mais c'est pas arrivé en Bretagne. Donc, je trouvais que c'était important de le dire.
Merci, Alex Vizorek.
Mais de rien.
Allez, nous sommes avec Lionel Nakache, neurologue et neurophysiologiste, qui publie Parlez-vous cerveau. Vous l'avez sans doute entendu l'été dernier sur cette antenne. C'était tous les matins à 8h55. Il en a tiré un livre et on va aborder avec vous ce premier sujet. Que se passe-t-il dans la tête de Gérard Collomb? Hier, le journal Libération, c'est gros défi, hein, ça. Hier, le journal Libération titrait Le malaise Collomb. Et puis sur son projet de loi asile immigration, on se rend compte un petit peu de l'utilité des députés pour y mettre des petits amendements à son délire. C'est... Donc, qu'y a-t-il dans la tête de Gégé? Et puis déjà au sein de sa famille, déjà, comment ça se passe avec lui?
Je veux juste qu'il se taise, je veux juste qu'il s'en aille.
T'as aucune conscience politique et t'es dans le déni absolu de tes origines. Ah, c'est désespérant.
Mais non, ça fait trois générations qu'on vit en France. C'est pas parce que Pépé s'appelait Svenka qu'on va devenir les bases arrières de la révolution tcherkistanaise. Merde !
Mais comment tu peux te vanter d'être de gauche et réagir comme ça ?
Je suis socialiste non pratiquant.
Un extrait du film Super Condriac. Alors, cette question, Lionel Nakache, vous y attendiez pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Gérard Collomb ? Alors, je précise, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, un sale boulot avec beaucoup de froideur ? Ça peut être une façon de décrire.
Bon, alors, je m'attaquerai pas ou je traiterai pas directement de Gérard Collomb parce que je le connais pas. Mmh. Et même de manière un peu éthique, je parle pas des gens, mais simplement, si vous parlez un peu du projet sur les modifications de la loi par rapport ce qui a été discuté récemment sur l'immigration, sur comment. Moi, ce qui m'a surtout marqué, au-delà même de lui-même, c'est le poids du vocabulaire, l'importance du langage qu'on utilise.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez des données objectives, des choses qui se passent, par exemple des flux de population. Et là, les éléments que je lisais, c'était par exemple qu'il y a le projet, par exemple, que 100 000 personnes étrangères viennent en France. Alors, c'est un fait, et c'est un fait qui soulève des vraies questions, des vrais défis, d'abord pour les personnes qui viennent, savoir arriver à leur adresser, à trouver des situations d'existence qui soient convenables, qui ne créent pas plus de souffrance, aussi pour les personnes qui vont interagir. Donc, il y a des vraies questions qui sont soulevées, mais la manière de laquelle on va décrire va souvent donner une orientation subjective qui peut des fois totalement déplacer. Donc, moi, j'avais vu, par exemple, ce mot de submersion. Quand vous avez un pays de 65 millions d'habitants, 100 000 personnes, c'est pas une submersion, c'est une vraie question, c'est une vraie question, il y a un défi, et je pense que ça serait totalement stupide de faire comme s'il n'y avait rien, mais de lui donner cette coloration extrêmement effrayante. Donc ces éléments de langage sont très importants. Pourquoi ? D'abord parce que ça donne une perception qui n'est pas nécessairement celle du fait qu'on veut décrire, et puis au-delà de ça, il y a un phénomène auquel moi je m'intéresse beaucoup dans mon labo, etc. Et je ne suis pas le seul. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle la dissonance cognitive.
Oui, c'est, j'allais vous en parler justement.
Et
les politiques semblent emblématiques de ça. Je vous laisse expliquer ce que c'est la dissonance cognitive.
En politique, ça joue, mais pas que. La dissonance cognitive, c'est que quand vous commettez une action, ça peut être aussi un discours. Hein. Quand vous adhérez à une idée, par exemple, vous faites une action qui, a priori, va un petit peu contre vos propres idées, contre vos valeurs. Quand vous faites quelque chose comme ça, en général, immédiatement, vous faites naître en vous ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas totalement à l'aise dans vos baskets parce que vous venez de faire quelque chose qui ne va pas vraiment avec vos idées, avec vos valeurs. Et face à ce type, c'est des situations de la vie quotidienne, hein, on peut en revenir après, pas que en politique. Mais quand cela survient, en général, on n'a pas beaucoup de mécanismes pour se protéger. Soit on oublie ce qu'on a fait et on est assez bon pour effacer nos discours, nos actions, et hop, un petit coup d'éponge dans les hippocampes.
On n'en parle pas à sa compagne parce que ça n'aide pas.
Une illustration pratique chez Alexis Vizorek de la dissonance cognitive. L'autre mécanisme, et celui-ci, on l'ignore plus, et c'est très important, c'est qu'en général, face à ça, on a tendance, à notre insu, à changer nos valeurs un petit peu. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose qui va contre vos valeurs, pour vous mettre d'accord avec vous, donc par exemple, une manip très très ancienne des années 60-70, vous prenez des gauchistes de Berkeley, vous leur dites plancher pendant 4 heures pour autoriser la peine de mort. Les gens font la disserte. Ils mettent toute leur intelligence pour le faire. Quand vous les débriefez après, ils ont fait quelque chose qui va contre leurs valeurs, eh bien ils vont changer de position. Ils vont dire, vous savez, tu sais, la peine de mort, c'est une question plus complexe que voilà, etc. Et donc là, la même chose, pourquoi le lien avec ce que vous disiez, c'est que lorsqu'on s'engage sur une pente, par exemple, politique, qui est un petit peu différente de la nôtre, par exemple un parti de gauche qui prend des idées un peu plus d'extrême droite, etc., le risque qu'il y a, en dehors d'endosser ces idées, c'est subrepticement de changer un peu de valeur. Parce que quand vous faites quelque chose et que vous devez l'endosser, dans la vie de tous les jours, et pas que en politique, donc ces mécanismes, ils sont en nous. Hein. Je n'échappe pas à la règle, ouais. Mais il faut savoir qu'on a ces mécanismes en nous.
Et vous dites, le cerveau modifie naturellement alors l'ordre de nos préférences et de nos valeurs pour pouvoir justifier un tel choix. C'est en tout cas dans votre livre, hein, Parlez-vous cerveau, aux éditions Odile Jacob. Ça m'a aussi frappé cette dissonance cognitive, surtout quand on entend Wauquiez aussi parler de bullshit et la façon dont il parle dans les médias et la façon dont il parle devant les étudiants. Ça fait tout à fait partie de ce chapitre. Thomas VDB, c'est votre grand retour.
Absolument.
Oh, dites donc,
je suis là à l'antenne, je suis ravi d'être avec vous, car je peux vous dire que...
J'irai au bout de mes grèves, tout au bout de mes grèves. J'irai au bout de mes grèves, la démocratie s'achève et j'ai pas parole après.
Voilà, de nous retrouver. Alors, j'ai pas besoin de préciser que ces jours-ci, il y a un léger problème de communication entre ce qu'on pourrait appeler d'une part les gouvernants et d'autre part les gouvernés. J'ai l'impression que les gens ne parlent plus vraiment la même langue aujourd'hui. Il y a qu'à voir l'entêtement de l'État avec le projet sur la SNCF quand ils disent qu'ils ne reculeront pas, hein, qu'ils resteront sur leur position. Le but, c'est la privatisation. Hein, voilà. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on les comprend. C'est vrai que le mot privatisation, c'est classe. Oui. Ça sonne bien. Privatisation. Voilà. C'est comme mécanisation. Voilà. Hein, prise électrique. Voilà. C'est des mots qui claquent. Prise unique. Voilà. C'est des mots qu'on aime bien dire. Faut les comprendre. Comment ne pas faire confiance à Emmanuel Macron et Édouard Philippe quand ils utilisent des mots aussi percutants? Voilà. Il y a un problème de communication entre les élus et les électeurs. On voit même d'ailleurs que ce qui peut être de l'humour pour certains ne sera pas du tout de l'humour pour les autres. On a qu'à voir, la semaine dernière, c'était le 1er avril. Et alors là, je dois dire que la palme du meilleur poisson d'avril de l'année revient à la mairie de Beauvais. Alors, je reviens sur cette histoire pour ceux qui ne savent pas. La maire LR, les Républicains de Beauvais, Caroline Cailleux, a fait croire sur Internet à ses administrés qu'un magasin Ikea, attention là, regardez-moi bien Monsieur Nakache, allait s'implanter dans la région et que l'installation de ce magasin allait générer la création de milliers d'emplois. Ouais. Alors ça aurait été peut-être moins violent, je pense, de faire croire peut-être qu'un magasin La Foire Fouille allait s'ouvrir à Beauvais, ça aurait été peut-être plus raccord. Parce qu'évidemment, quand les habitants de Beauvais, ils ont vu ça, ils étaient contents. Hein, c'est vrai que le truc le mieux qu'il y avait à Beauvais jusque-là, c'était l'aéroport. Hein, c'est vrai que l'aéroport de Beauvais, c'est un peu le Bourget des demandeurs d'emploi. Hein, alors bon, c'est vrai que la création d'un magasin Ikea, pour eux, c'était une montée en gamme. Et voilà, finalement, Caroline Cailleux, elle a fait « Passons l'avril !» Voilà, et bien, c'est comme les gens qui font une blague et juste après, ils disent « Humour !» Voilà, en général, c'est des gens pas très marrants, en général. Parce que le pire, c'est que, en plus, quand on prépare un poisson d'avril, ce que je sais, c'est qu'on prépare un poisson d'avril, en général, on rigole à l'avance.
Bien sûr.
Donc j'imagine la meuf toute seule devant son ordi, écroulée de rire. « Ils vont tout gommer! Ils vont tout gommer !» Alors j'insiste quand même, parce que c'est vrai qu'elle s'est excusée, il faut préciser, parce que pour une fois que les Républicains, ils sont indécents involontairement, voilà, il faut quand même le faire remarquer. Elle n'est pas précisée, elle n'est pas précisée que le poisson du poisson d'avril, c'est un piranha très agressif, vraiment, qui pue une méduse, voilà, quand tu la touches, tu meurs. Parce qu'imaginez le pauvre chômeur de Beauvais, le gars, il a que 1000 euros d'économie, toute sa famille, par exemple, rêve de partir en vacances, et papa, il dit non, désolé, on est obligé de garder les sous, papa, il n'a pas de travail. Il a vu la news sur Internet, le papa, il dit à sa famille, les enfants, préparez vos valises, papa, il va trouver du boulot, on va claquer toute la cagnotte. Voilà, alors personnellement, moi en tout cas, c'est la première fois que je vois un poisson d'avril en deux temps. Hein, c'est-à-dire que quand elle a dit poisson d'avril, les gens à qui elle a fait la blague n'ont pas trop rigolé. Par contre, moi, quand j'ai lu ça dans le journal, qu'est-ce que j'ai ri, hein, voilà, belle démo, deux poissons d'avril en deux bandes. Alors c'est sûr, en tout cas, que si on se projetait dans une société où le plein emploi régnerait en maître, où les gens seraient tous gavés de pognon, aucun doute, ce serait un poisson d'avril hyper réussi, hein, pas de problème. Malheureusement, c'est vrai qu'on est en France, on a encore un peu de mal avec l'humour sur le chômage, d'autant plus quand cet humour est pratiqué par les gens qui en sont responsables quand même. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une belle leçon d'imagination que la maire de Beauvais donne à tous les hommes politiques qui font de la merde éventuellement au mois d'avril. Dès que vous faites n'importe quoi en avril, c'est pas dur, vous dites c'est un poisson d'avril alors, enfin, c'est pas dur quand même. Par exemple, admettons si j'étais en garde à vue en ce moment, par exemple, parce qu'admettons je serais sorti il y a deux jours d'un bar en gueulant, en insultant tout le monde avec des insultes racistes et voilà, en insultant des filles, enfin bref, si j'étais Jean-Vincent Placé, eh ben je serais en garde à vue maintenant. Je dirais, mais je déconne, c'était poisson d'avril les gars. Alors là, les flics ils me diraient, non mais là on est le 14 avril, normalement c'est le 1er avril les blagues. Et là je dirais, ouais mais non, c'est comme la bonne année, on a le droit de le faire jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc Emmanuel Macron, Édouard Philippe, il vous reste encore 15 jours pour annuler le projet de la SNCF. SNCF et dire « Humour, les mecs, on déconne !»
Merci Thomas VDB pour ce retour flamboyant dans Par Jupiter. Et justement, à propos de ce poisson d'avril qui est horrible, dans votre livre « Parlez-vous cerveau », Lionel Nakache, vous écrivez « La douleur sociale due à une quelconque humiliation stimule la même matrice que la douleur physique. »
Oui, c'est absolument authentique. Ouais, c'est
ça. Et donc ça en dit long sur... sur les dégâts que peuvent faire la politique sur
ça
sur
explique qu'on peut arracher une chemise de manière physique quand on a été victime d'un souci social juste avant.
Alors peut-être ça, vous avez raison, comme à Air France là, mais le point important c'est qu'effectivement le vocabulaire à nouveau qu'on utilise pour parler de nos humiliations sociales, de la douleur sociale, quand même les mots qu'on nous donne nous blessent par exemple, eh bien en fait la façon de laquelle notre cerveau vit ça, et donc laquelle façon nous aussi on vit ça, c'est en recyclant des circuits de la douleur physique. Autrement dit, c'est pas uniquement des jeux de mots, des jeux de langage, il y a une vraie proximité entre la douleur physique et la douleur sociale ou l'humiliation en général.
Ouais. Et voilà, et on a même réussi à intellectualiser une chronique de Thomas VDB.
Je sais pas comment vous avez fait, je
suis
quoi il parle.
De moi qui parle de ça.
Cette émission est pleine de surprises, alors restez avec nous.
Tes bras qui m'en serrent, c'est bien là que je me perds. Les Indiens d'Amazonie attrapent au cœur des maladies. Contagion express envoyé par courrier civilisé.
And the Queens, Amazoniac sur France Inter, programmation musicale, Djoubaka, et de Christine, nous en avons une également, cher Lionel Lacache.
qui est avec nous, neurologue et neurophysiologiste, car nous parlons beaucoup de cerveau aujourd'hui dans cette émission. Et l'autre Christine, elle nous vient de Suisse. C'est Christine Gonzalez.
Ah non, erreur. Christine Gonzagas.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans The Voice, soirée sous haute tension. Chers amis, ce soir, des stars de l'au-delà vont tenter de séduire le jury pour cette audition de la dernière chance. Ils ont du talent, ils ont une voix, soirée exceptionnelle. The Voice of the au-delà, ça commence maintenant. Et notre premier candidat est à mes côtés. Bah, il est très stressé. Hein.
Oui, j'ai les lèvres qui sèchent.
Louis de Funès, vous l'avez reconnu. C'est une première pour vous. Hein. On comprend votre anxiété.
Oui, j'ai peur.
Ça va aller, vous inquiétez pas. Face à vous, le jury de The Voice, Zazie, Pascal Obispo, Mika, Florent Pagny. Dites quelque chose de gentil à Louis pour le relaxer un peu.
Ça va ?
Bonsoir.
On va être gentil, on va rien faire. On va pas faire de bruit, pas de grimacerie.
Alors, moi, oui.
Alors on y va. On écoute Louis de Funès interpréter le Salve Regina. C'est à vous, c'est parti.
Donneuse domine des profondis vécues à nul pâché.
Un siège s'est retourné. Bravo Louis de Funès, le public est enchanté. C'est vous, Zazie, hein, qui vous êtes retournée la première.
Oui, là, vous parlez d'enchantement. Pour de vrai, on y est. C'est dément.
Oui, Mika, vous partagez l'enthousiasme de Zazie.
C'était dark, c'était délicieux. Ça a osé. Ça fait du bien d'avoir cette magie dark, sincère, intense.
Oui, vous êtes sous le charme.
C'est sûr.
Ah, je vous sens très ému, hein, Louis.
Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai eu. J'étais ravi.
Oui, nous aussi, on est ravis, on l'applaudit. Oui.
Bravo.
Voilà. Prochaine candidate, c'est une femme. Elle s'appelle Edith. Voilà, elle est déjà installée sur le plateau, prête à chanter. C'est à vous, Edith.
Me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. J'ai beau chercher à la ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Personne s'est retourné.
Alors, c'est triste.
Bon, bah, oui. Pourquoi, cher jury, cette prestation ne vous a-t-elle pas convaincu?
Elle doit se lâcher un tout petit peu. C'est la seule chose que
ouais,
j'ai
peut-être
vu.
C'est ça, ouais. Et elle manque un peu de métier.
une réaction peut-être de la candidate. Edith, qu'est-ce qui a manqué? Non, oh, elle pleure. Zazie, dis-tu quelque chose pour la consoler peut-être?
Je t'ai vu là, je pense que tu étais morte de trouille. Ta voix s'est peut-être un peu même serrée à cause de ça. Tu as fait un peu une contre-performance pour moi. Donc ça va être très compliqué en fait.
Désolée Edith, vous quittez ce soir la compétition. Telle est la cruelle loi de The Voice. 10 000 euros, c'est la valeur du très beau chèque que l'un d'entre vous remportera. Écrivez un message au 6-15-15, 1 euro le SMS. Et comme vous serez plusieurs centaines de milliers à nous écrire, on s'en mettra plein les poches. Tentez votre chance. Bienvenue si vous nous rejoignez dans The Voice of the Au-delà. Dernière candidate, davantage connue pour sa plume que pour sa voix, Marguerite Yourcenar va tenter, oui, de séduire le jury. Marguerite, on vous attendait pas dans cet exercice. Pourquoi The Voice?
Il y a l'amour, il y a la passion. C'est un assez grand mystère. Mais pourquoi, je ne sais pas.
Et vous allez nous proposer votre version de la lambada, une version inédite. Hein. Personne ne l'a jamais chantée comme vous auparavant.
On ne sait jamais, mais ça m'étonnerait.
Alors on vous écoute. Hein.
Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Les forces que tu tiens, ta liberté dispose. Hein. Mais de tous tes conseils, l'univers est absent.
Un siège retourné. 2, 3, 4. Oh, tout le monde est debout. Carton plein. Bravo. Une réaction, Pascal Obispo.
Elle était dedans, quoi. Vraiment dedans.
Elle est dedans. Et ça, ça fait plaisir.
Ouais, ça fait plaisir, Mika.
En fait, l'excellence provoque l'excellence. Et on se retrouve dans des situations comme celle-là. Bam!
Ouais, ouais.
Mais comme une flèche qui est allée directement ouais. Là où il fallait aller.
Tant de compliments, Marguerite, ça doit vous toucher. Hein.
Notez bien qu'au fond, je suis d'accord.
Mika, un dernier mot à Marguerite Yourcenar.
J'ai vraiment aimé ce qu'elle a amené. C'est un coup de vent qui est totalement différent de tout ce qu'on a dans cette saison de The Voice. Et ça fait du bien, franchement, de t'avoir ici. Alors j'espère bien que tu restes.
Vous restez?
Oui.
Elle reste! Magnifique. Merci. Merci d'avoir regardé The Voice of the Au-delà. La semaine prochaine, même jour, même heure, même chèque à remporter, même arnaque. Belle soirée à toutes et à tous.
Christine, que vous avez dit Christine Gonzalez.
Gonzagas.
Gonzalez. Qu'est-ce qu'on fume en Suisse?
Vous êtes bien reposé pendant les vacances.
Hein, oui, ça a été super fort. Merci beaucoup.
La
Christine
semaine prochaine, Koh-Lanta.
Que se passe-t-il dans le cerveau de Christine Gonzalez? Restez avec nous, car Lionel Nakache est là pour la disséquer, pour la passer au scanner. Neurologue, neurophysiologiste qui publie Parlez-vous cerveau avec Karine Nakache aux éditions Odile Jacob et France Inter. Et Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure. Avant cela, on va aborder ce sujet des chercheurs qui travaillent à la conservation de notre cerveau et propose de le vitrifier, puis de le sauvegarder sous forme informatique. Il y a 25 personnes qui ont déjà allongé 10 000 dollars pour que l'entreprise Nectome les euthanasie avant, évidemment, mais rendre leur cerveau immortel. Un gros dossier éthique en perspective, n'est-ce pas?
Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur, j'ai un certificat signé de mon docteur, dites-moi.
On connaît les paroles là, évidemment. Et oui, avant le cerveau, il y a eu le cœur par Dorothée, donc le MIT n'a rien inventé, sachez-le. Alors, Lionel Nakache, cette info paraît complètement nous dépasser. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent à vitrifier notre cerveau. Donc, il faut d'abord être euthanasié, sachant qu'en France, l'euthanasie n'est pas encore légale. Non. Ça va à une vitesse folle. Est-ce que faire ça, c'est absolument utile comme recherche? Ça peut aboutir à quelque chose d'intéressant?
Je pense, j'étais tombé sur cette information il y a quelques jours. Pour moi, clairement, on peut dire les choses clairement, c'est qu'il y a quelque chose de délirant. Et de délirant, pourquoi? Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que ça paraît avec une sorte de jargon scientifique autour, mais avant tout, c'est rien d'autre que le recyclage d'un antique fantasme, celui de l'immortalité, et qui en lui-même est intéressant parce qu'il nous renvoie à quelque chose qui, pour le coup, est tragique. C'est que là, on est content, on s'amuse et tout, mais si on est tout seul, à un moment donné, on peut se rendre compte, le fait de prendre conscience de sa disparition, du fait qu'on va mourir, on peut dire c'est presque une des tragédies de l'humain. Donc, à travers les périodes, on n'arrête pas de chercher des solutions un petit peu à ce problème.
Et le cerveau serait l'organe qui nous représente le plus. Alors, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que notre cerveau nous survive dans un autre
c'est
corps
peut-être ça,
que notre corps nous survive avec un autre.
C'est ça, c'est peut-être ça le progrès un peu dans la version contemporaine. Alors, pourquoi c'est délirant? Je peux vous le dire rapidement. D'abord, parce que cryogéniser, on sait le faire pour quelques petits organes, et en soi, il y a des potentiels médicaux extrêmement importants, je ne vais pas développer, donc c'est intéressant les techniques de cryogénie. Maintenant, cryogéniser le cerveau, à ma connaissance, c'est pas mon domaine, mais aujourd'hui, on sait pas faire un cerveau humain. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étape 2, c'est l'étape d'arriver à identifier un connectome. Un connectome, c'est-à-dire l'ensemble des connexions entre les neurones de votre cerveau. Et je vous rappelle, on a à peu près 100 milliards de neurones. Chacun est connecté avec 10 000 neurones. Donc, ça vous fait 100 milliards fois 10 000 connexions à peu près, d'accord? Ça fait 1 million de milliards. C'est quelque chose qui est inimaginable, si vous voulez. Et le point qui devient encore plus délirant, c'est qu'a priori, imaginons que je me fasse euthanasier et cryogéniser le cerveau. A priori, c'est pas tellement pour que mon cerveau cryogénisé trône dans le salon de mes descendants. C'est plutôt pour qu'un jour, j'ai une résurrection de ma conscience.
Ah, c'est pas pour le mettre sur la cheminée.
Non, en plus, elle va chauffer. Donc, mais disons, l'étape 1 du délire, c'est qu'on sait pas vraiment cryogéniser le cerveau. Étape 2, c'est qu'arriver à ce connectome, aujourd'hui, on est très très loin de savoir le faire. Et l'étape 3, c'est que c'est pas là que ça s'arrête, ça serait de réinstancier notre conscience. Alors évidemment qu'on a besoin de notre cerveau pour être conscient. Sans cerveau, pas de conscience. Mais très rapidement, on a une connexion, un connectome. Par exemple, dans votre cerveau, vous avez un connectome, Charline, maintenant. Et là, vous êtes dans un état, vous êtes consciente, vous êtes drôle, pleine d'esprit, marrante, etc. Mais vous aurez le même quand vous serez en sommeil profond, totalement inconsciente cette nuit. Ce que je veux dire par là, c'est que le connectome ne suffit pas.
Je rate des blagues, vous voulez dire, pendant mon sommeil, je fais des blagues et je rate.
Mais même quand vous ne rêverez pas, autrement dit, à connectome identique, on peut être dans des états mentaux très très différents. Ce que je veux dire par là, c'est que pour arriver à être conscient, il faut pas seulement un connectome, il faut ce qu'on appelle l'activité cérébrale qui est ancrée dans le connectome, mais qui est une dynamique qui n'arrête pas de changer. Donc, si vous voulez, là, on est très très à distance de quelque chose de réel, de possible, et souvent de manière éthique. Hein, quand on raisonne, vous parliez du comité d'éthique, mais souvent une astuce très précieuse, c'est quand vous voyez le décalage entre un discours qui est très sûr de lui, voire arrogant, et ses fondements qui sont totalement fragiles, même inexistants. Et donc là, on a un exemple typique. Et puis j'avais vu qu'il y avait 25 personnes qui avaient déjà signé pour pouvoir, vous savez, se faire cryogéniser. ce qui laisse entendre aussi que là, le profil de ces personnes, ça ouvre autre chose. C'est-à-dire l'idée de pouvoir se lancer dans un jeu social dans lequel on pourrait se dire, bah, moi, je vais m'immortaliser et puis tous les autres ont qu'à crever, etc. Non, mais ça pose aussi d'autres questions, si vous voulez. Donc, une raison de plus pour laquelle, face à des nouvelles pareilles, mais je pense que ça, c'est peut-être une sorte de, non pas de canular, pas un poisson d'avril, mais peut-être quelque chose dont on sait qu'il vise à saisir, à sidérer les esprits. Et je pense que face à ces nouvelles, il ne faut pas qu'on reste sidéré. Et pour ne pas rester sidéré, il faut être capable de s'emparer du vocabulaire, ici des neurosciences, des mots de base, pour pouvoir, c'est la condition sine qua non, de penser ces questions en ayant internalisé les mots, voyez. Et c'est un peu ça l'objectif, un peu de, par exemple dans ce livre, c'est d'arriver à pouvoir ne pas rester tétanisé par la science, mais pouvoir penser comme citoyen face à ces questions. Alors là, c'est une question radicale, extrême, pas très sérieuse.
Eh bien justement, venons-y alors, à parlez-vous cerveau et à reprendre la main sur toute cette machinerie, Juliette Arnaud.
Ouh là là, là là, ce livre, Charline, mon Dieu, quelle angoisse. Ça, c'est ce que je me suis dit au départ. Un livre écrit par un neurologue normalien, professeur à la Pitié-Salpêtrière, tout ça alors que j'ai la capacité d'abstraction d'un chien labrador de 14 mois. Oui, non, c'est pas massif hein, comme capacité d'abstraction. Sauf que je pense après... À présent que j'ai surmonté mes inhibitions après l'avoir lu, que cet ouvrage est essentiel dans un domaine dans lequel, je le dis sans forfanterie, j'excelle, les tourments amoureux. Alors qu'est-ce qu'un tourment amoureux? Je vous en fais un résumé exhaustif. Le haut, le bas, le chaud, le froid. Je ne saurais trop conseiller aux victimes d'un chagrin amoureux, une fois qu'ils ont bien chialé en écoutant tout Barbara, en ayant relu Belle du Seigneur et en revoyant Casablanca, il nous restera toujours Paris, Play It Again, Sam, embrasse-moi, comme si c'était la dernière fois. Bref, quand vous en êtes au PQ, parce que les mouchoirs, il n'y en a plus à Carouf, de considérer une autre perspective, le cerveau. Et puis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Stendhal. Relisons Stendhal. Non, Alex, c'est purement théorique, pas là tout de suite, on n'a pas le temps, Alex. Pourquoi Stendhal? Une de ses citations, en un mot... Disait-il, écrivait-il, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. Ça, c'est dans de l'amour. Ça, c'est la célèbre cristallisation. Hein. Vous savez, ce phénomène d'idéalisation étudié par Stendhal, qui n'était pas un neurologue, mais romancier. La cristallisation qui prend des proportions chimiques flippantes lorsque l'être aimé vous colle le doute, s'éloigne ou vous quitte. Or, réécoutez bien, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. Penser, voir, aimer sont des activités spécifiques du cerveau. Ce truc entre nos deux oreilles, sous nos cheveux blonds décolorés. Enfin, dans mon cas, cet organe aux 100 milliards de neurones, de 1 million de milliards de synapses, c'est bon ? Elle élargit la perspective, là ? Alors, établissons une intimité avec le cerveau, même si c'est un risque. Parce que je vous cite, Lionel Nakache, on risque de regretter le temps de l'étrangeté et du mystère, abasourdi que nous serons par ces détails moléculaires crus, presque obscènes. Écrivez-vous, presque obscènes, vous nuancez, je vais être plus nette, obscènes. Mais c'est ainsi, on ne pense jamais à un organe avant qu'il ne nous fasse mal. Ça, c'est une phrase typique de Toubib, au hasard, un Toubib qui vous propose une coloscopie. Une phrase tellement pleine de bon sens qu'on ressent irrésistiblement une envie de cogner la personne en blouse blanche qui vous lacène. L'idée, la notion la plus réconfortante que j'ai piochée dans cette lecture est dans le chapitre intitulé « La plasticité cérébrale ». La plasticité. La plasticité, c'est le saint graal des chirurgiens esthétiques hein, et des starlettes de télé-réalité et de leurs grandes sœurs de cinéma, bisous les filles. Leur graal, vous dis-je, leur rayon de lumière verte de Gatsby le magnifique, leur bol de sangria, plus prosaïquement. Sauf qu'il faut flanquer du plastique, en gros, dans la chair pour l'obtenir. Et donc anesthésie, argent et risque de ressembler à un mérou figé. Le cerveau, lui, fait ça tout seul et pour tout le monde. Alors autant le cerveau, dont on n'utilise que 10% est une idée reçue, une notion mal comprise et super culpabilisante, lisez ce livre, vous pourrez briller dans les dîners mondains en expliquant que c'est de la bêtise, autant le fait de la plasticité du cerveau est révolutionnaire pour moi et autrement enthousiasmante. Notre cerveau est une sculpture vivante ininterrompue et qui a, par exemple, pour conséquence que notre cerveau ne vit jamais deux fois la même expérience de manière identique. C'est magnifique, c'est inespéré comme perspective, c'est superbe. Conséquence, au hasard, un chagrin d'amour est toujours nouveau. C'est jamais le même. Ce n'est pas une redite, ce n'est pas une ornière déjà visitée. Je vais mieux, je vais bien. Merci, bisous, merci.
Je vois, bravo.
Elle va pas tellement mieux. Hein. Mais elle le vit différemment.
Ah oui, je ne saurais pas le dire
donc,
mieux.
Voilà l'effet sur Juliette Arnaud de Parlez-vous cerveau, écrit avec Karine Nakache, de Lionel Nakache, aux éditions Odile Jacob, paru en coédition avec France Inter. Alors, qui vient d'entrer dans ce studio comme tous les vendredis pour telle une hirondelle nous amener le week-end?
Eh bien, écoutez, je vais lui faire un cadeau parce qu'on m'a envoyé un livre cette semaine. Les auteurs m'ont dit qu'ils nous écoutaient, c'est écrire ses chansons pour les nuls. Donc voilà, Fromet, il il est là. Vous pouvez venir le chercher après. Okay, mais je sais que vous allez juste faire un addendum parce que vous êtes brillant.
Non, j'en ai besoin.
De quoi allez-vous nous chanter ?
Eh bien, qui mieux que Georges Brassens pour évoquer la grève à la SNCF, puisque je vous rappelle qu'il a chanté la fameuse « Gare aux gorilles
». C'est avec un mauvais présage que de fébriles voyageurs contemplaient des panneaux d'affichage, les priant d'aller voir ailleurs. Les pour les contre, comme c'est l'usage, s'exprimaient en termes fleuris, que ma mère courtoise et sage m'a défendu de nommer ici. La gare est vide. Le patron des chemins de fer criait éperdu nom de nom. Cette grève est mortifère, montrons-lui au contraire que non. Ventre bleu, c'est une aubaine, une opportunité très rare. Pendant 3 mois, 2 jours par semaine, plus un seul train en retard. La gare est vide. Là où c'est plus problématique, c'est que la grève remet en cause bigrement la signalétique, pondue par des crânes d'œufs, je suppose. Que deviennent en effet les Ouigo, les Inouïs et autres blagounettes? La vérité, c'est plutôt les Nongo, ou à la rigueur, les peut-être. La gare est vide.
Je sais, c'est pénible, hein, mais c'est Brassens.
L'usager foutrement mécontent, jusqu'à se montrer furibard, devrait être reconnaissant d'échapper de fait au wagon-bar. Le bougre ayant déjà dû goûter au sandwich en triangle infâme, a toutes les raisons d'espérer une grève ad vitam aeternam. La gare est vide.
Il y a encore 12 couplets.
Quant au cheminot bouc émissaire, faut-il rappeler de rechef que le cheminot de naguère est devenu agent SNCF, de même que le sbire à casquette, jadis bien nommé contrôleur, s'est transformé sa perlipopette en chef de bord, voire manager. Mais la gare est vide. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux conserver cet accent impayable que d'aucuns jugeront affreux. Pour conclure cette chanson ferroviaire, à quiconque me donnerait tort, pardonnez-moi de rouler les airs, c'est la seule chose qui roule encore. La gare est vide.
Merci beaucoup Lionel Nakache d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle votre ouvrage « Parlez-vous cerveau » écrit avec Karine Nakache aux éditions Odile Jacob qui retranscrivent aussi toutes ces chroniques qu'on a pu entendre avec plaisir tout l'été sur cette antenne. Merci à tous, merci à Christine Gonzalez, reposez-vous Christine oui. Surtout. Juliette, merci à Thomas VDB qui est de retour, merci Alex. On va se retrouver lundi avec Marinette Pichon.
Ça parle foot.
Ouais, c'est la Zidane du foot féminin. Ben, alors, ouais. Prévenu. Merci à toute l'équipe. Et puis le mot de la fin, on va le laisser à Jacques Higelin.
L'humour et l'amour sont les défenses des gens qui n'ont pas d'armes autre que ça.